RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Hein.
Football show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Jérôme Rotten, Daniel Riolo, ils sont là, messieurs, dames. Attention, il est 23h33. Le moment est solennel. Je peux vous donner les chapeaux.
Oh. Je pensais que ça arriverait plus tard. Je note. Attention.
Je demande quand même que la plus grande confiance me soit accordée, parce que je sais d'avance que je vais faire un sans faute.
C'est normal, t'as bossé toute la journée dessus.
Ne demande pas une confiance aveugle non plus, quand même.
Alors. Chapeau 1, puisqu'on a tous les qualifiés.
Bon, celui-là, c'est le plus simple.
Bon, Real, Atlético, Barça, Bayern, Juve, PSG, City, Locomotive, Moscou.
Eh si.
Bah si, ils sont champions.
Oui.
Bon, ça fait déjà une bêtise à zéro en ma faveur.
Et Atlético, ouais. Pourquoi ils sont là?
Vainqueur de la C3.
La C3, ouais.
Ah. Et donc, ça les met dans le chapeau 1 obligatoire?
Oui,
mais t'as 3 Espagnols dans le
chapeau. Tout comme le tenant du titre, le Real.
Tu sais
plus faire avec des chapeaux, si tu veux. Tu sais, je suis
spécialiste. On peut poser des questions ou pas, quand même?
Bien sûr, on peut poser des questions.
Est-ce que tu es persuadé que aucune personne sur Terre qui nous écoute n'ait envie de savoir pourquoi l'Atlético Madrid est dans le chapeau 1?
Tu as raison, on le précise, parce qu'ils ont gagné l'Europe.
Pourquoi Moscou aussi
Marseille aurait pu être chapeau 1 s'ils avaient gagné contre l'Atlético en finale.
Ouais.
Mais ils n'ont pas gagné.
Ouais.
Chapeau 2. Le Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, le Shakhtar Donetsk, Benfica, donc qui se qualifie ce soir, Naples, Tottenham et Rome.
Pas Valence dans le chapeau 2?
Non. Valence était hier soir dans le chapeau 4 et là ils vont rentrer dans le chapeau 3. Ils peuvent remercier les Valenciens, ils peuvent remercier Benfica qui passe et ils peuvent aussi remercier l'Étoile Rouge.
Ouais.
Parce que Salzbourg.
Je ne sais pas s'ils peuvent les remercier parce qu'être dans le chapeau 3, c'est pas un cadeau.
Salzbourg aurait été dans le 3 en cas de qualif. Dans le 3.
Comment Salzbourg pouvait débarquer dans le 3?
Écoute, ils ont fait des bons parcours européens ces dernières saisons. Donc, dans le 3, tu as Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, l'Ajax, le CSK, le PSV et Valence. Et dans le 4.
Attends, le 3, il faut quand même s'arrêter. Donc, Liverpool, ça c'est un peu la tête de
la Valence aussi quand même.
Liverpool, Valence.
Plus Liverpool que Valence.
Les deux Français, Lyon et Monaco.
Voilà.
Oui.
Après PSV, Ajax, CSK et Schalke.
Là, ça laisse la place à des bons tirages là-dedans.
Et puis chapeau 4, Pilsen, Bruges, Galatasaray, les Young Boys de Berne, Hoffenheim, l'Inter, l'Étoile Rouge Belgrade et l'AEK Athènes.
Voilà, c'est vraiment le chapeau, c'est chapeau facile ça.
À part l'Inter.
Qui bon.
Au Galatasaray quand même, méfiance.
Oh.
Non.
Oh, arrête, ça va.
Hoffenheim.
Bah, Offenheim, si t'écoutes David Lorto,
pour le PSG, il y a à avoir peur de personne dans le chapeau 4.
Bah, heureusement, quand.
Alors, je lis un bandeau sur RMC Sport News, Bribois va tenter le sans faute sur les chapeaux. Est-ce qu'on peut changer ce bandeau en mettant Bribois a fait le sans faute sur les chapeaux, s'il vous plaît?
De toute façon, c'était sur deux soirs que ça se valait. Hier, il y a eu erreur. Avec Valence, chapeau, dans le mauvais chapeau.
C'est quand ça t'arrange, hein?
Non, hier, il y a eu.
C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs.
Hier, il y a eu. Voilà.
T'as mis 48 heures.
Tu nous fais les possibilités, groupe de la mort, groupe du facile.
Ah, voulez celle-là?
Oui, j'aime bien.
Alors, je vous fais pour Paris en premier, vu qu'ils sont chapeau 1. Un bon vieux groupe de la mort qui tue. Je vous mets dedans, allez, Tottenham, vu la dynamique du moment.
Ouais.
Tottenham, je vous ajoute un petit Valence.
Ouais, mais, ouais, parce qu'il peut pas y avoir Liverpool.
Il peut pas y avoir Liverpool. Ouais. Et je vous mets l'Inter.
Ouais, mais ça passe quand même.
Ça passe quand même.
Il n'y a pas plus difficile que ça encore?
En chapeau 2.
Je vais tenter
chapeau,
autre chose.
Chapeau 2, t'as mieux que Tottenham.
Je vous mets Borussia Dortmund, Liverpool.
Non.
Borussia Dortmund, Liverpool, Inter.
Ouais, mais ça doit passer quand même.
Non, mais Paris, de toute façon.
C'est compliqué, c'est effectivement un groupe pas simple, mais logiquement, si tu te plantes en poule, c'est pas bon, quoi. Voilà.
Les poules, ils gèrent bien les Parisiens.
Jusque là, ils ont toujours eu une équipe et deux
parfums.
Oui. C'était une qualité
c'est
à chaque
vrai,
fois
ouais.
qui était.
Il n'y a pas Ludo Goretz, là, dans
ils n'ont jamais eu le truc avec.
Avec deux grosses équipes dedans.
Voilà.
Un petit groupe de la mort pour Lyon.
Là, ça peut faire mal.
Au hasard, Barça, Borussia Dortmund, Inter, c'est possible.
Ouais, ça passe pas.
Voilà. Monaco, pareil.
Monaco, ça peut être la même chose. Je vous fais un autre groupe de la mort pour Monaco. Atlético, Manchester United, Inter.
Ça passe pas. Mais pour Lyon ou Monaco, c'est plutôt avec quel genre de groupe ça passe. Ils partent a priori pour pas passer. Quel est le groupe facile pour Lyon?
Pour Lyon, groupe facile.
C'est Lokomotiv Moscou.
Lokomotiv Moscou.
Ah, pour les deux. Hein.
Ouais, qui c'est que je peux te mettre? Bah, Porto.
Il y a un an, ils sont pas passés contre CSKA Moscou.
Oui, non.
Mais Lokomotiv Moscou, Porto, Pilsen.
Oui, bah là, tu dois. Voilà. Là,
mais de toute façon,
non, mais s'ils ont ça, c'est.
Attends, de toute façon, si t'es dans le cadeau, chapeau numéro 3, c'est que la logique veut que tu te retrouves en Europa League à la fin des poules. C'est ce qui peut arriver de mieux à ces deux équipes au départ. Monaco l'année dernière, rappelle-toi.
Il faut pas que ce soit le groupe. Ils avaient eu un groupe facile avec Zenit. La Gantoise,
ça devait être Séville.
Ils avaient fini quatrième.
Fiasco l'année dernière, quatrième. Monaco, c'est fiasco aussi.
Exactement.
Donc ces clubs-là, moi j'estime que par rapport aux moyens que ont ces clubs. Alors mercato par mercato, que les moyens ont ces clubs, normalement tu devrais.
Demain,
pas,
je le rappelle.
Tu dois sortir, demain, je le rappelle,
tirage à 18h. Team Dugas, spécial tirage au sort. Jérôme sera là d'ailleurs. 18h, 20h, toutes les réactions en direct. Vous aurez tout. Les réacs, il sera sur place avec toute une équipe.
Comment ça sera sur place? Qui sera sur place?
Je te signale qu'RMC Sport est détenteur de droits désormais.
C'est nous qui faisons tout. Je suis en Monaco, mais toi tu vas à Monaco demain?
Non. En studio ici, là.
Arrête, t'as dit sur place parce qu'il y a des gens qui.
Sur place, il y aura Mohamed Bouafsi, Florent Germain, Yann Pécheral, et tout le.
Très bien.
Comme on dit désormais dans le jargon, toutes les équipes.
Très bien.
Les croqueurs sont là-bas. Après, il faut bien qu'ils kiffent un petit peu. Après, ça va vite s'arrêter.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, parce que si je le dis moi, ça va être gênant, est-ce que vous pouvez dire à Adrien Aiguin pour son journal moyen de demain que j'ai été parfait?
Si on.
Aujourd'hui, oui.
C'était le plus simple. C'était hier que c'était
compliqué. Dossier suivant. La tactique. Et oui, vous nous l'avez demandé et l'after vous a écouté. Vous voulez parler de tactique dans l'after, et bien on va vous en donner de la tactique. Vous allez en bouffer de la tactique. La semaine dernière, c'était la leçon de Jérôme qui concernait la possession de balle. Dossier repris dans la presse écrite deux jours plus tard d'ailleurs. Jérôme a été précurseur.
C'est bizarre. On va voir si Yann Pécheral va être repris dans la presse écrite.
Pourquoi pas. Ce soir, c'est la leçon tactique de Yann Pécheral.
C'est le but.
Pour parler de l'OGC Nice et de Patrick Vieira. Jingle tactique.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Yann, bonsoir.
Bonsoir messieurs, salut à tous.
Salut Yann.
Ah Yann, tu seras toi au tirage demain?
Ah j'y suis, ouais, demain avec plaisir en plus. Chaque année on a fait le tirage au sort de la Ligue des Champions. Là comme RMC Sport est diffuseur, on va certainement avoir de belles places, de belles interviews,
de belles réactions,
on sera bien placé.
Exactement.
Là on sera très bien.
Non, j'ai fait les demandes pour toi, t'en fais pas, ça va bien se passer.
Ouais, je t'ai entendu parler de croqueur et je m'étonne de ta non-présence demain.
Parce que c'est... Moi, si je fais pas le tirage, ça sert à rien que je vienne.
Normalement, oui, voilà, j'allais dire, c'est toi qui dois tirer, effectivement.
Ah ben c'est
toi
qui dois tirer. Soit je fais le tirage, soit je reste à la maison.
Évidemment.
Je suis pas derrière la caméra comme vous.
Alors, c'est quoi le style Patrick Vieira, Yann?
Alors, je vous entendais parler de possession de jeu. On est un petit peu dans la continuité. Les dirigeants niçois, ils ont, avant d'engager Patrick Vieira, longuement discuté avec lui sur sa philosophie de jeu, sur ce qu'il voulait faire avec cette équipe niçoise. Et les chiffres, je crois, sont assez parlants depuis le début de la saison. Nice est une des équipes qui possède le plus la balle. C'est un entraîneur qui n'a pas peur de jouer vers l'offensive. C'est vrai que souvent, en Ligue 1, on reproche à certains techniciens d'être assez frileux. Ça sera pas le cas de Patrick Vieira cette saison. En trois matchs, il a essayé plusieurs schémas tactiques. Et c'est peut-être pour ça qu'on en parle cette semaine, parce que lors du dernier match face à Dijon, il a tenté quelque chose d'un petit peu particulier. Il avait commencé la saison avec une défense à 4 assez classique. Et là, sur le match face à Dijon, il a essayé un schéma tactique avec trois défenseurs qui étaient Olivier Boscagli, Dante Christophe Herrel. Ça, c'était quand l'OGC Nice avait la possession de balle avec un milieu assez fourni avec Danilo Tamézé, Pierre Lesmelou, Willan Cyprien, et puis trois attaquants, Srarfi, Saint-Maximin et Maoulida. Et à la perte de balle, il y avait un garçon qui est Adrien Tamézé qui se transformait en latéral droit. C'est lui qui venait couvrir le latéral droit. On n'était pas sur un schéma avec trois défenseurs centraux, deux latéraux comme on a l'habitude de voir, qui sont des schémas à trois ou à cinq derrière, ça dépend comment on présente la chose. Là, on était vraiment sur trois défenseurs et puis Tamézé qui venait du milieu de terrain sur le côté droit. ça n'a pas fonctionné si on regarde le résultat pur et dur. L'OGC Nice a pris une rousse, une fessée, 4-0 face à Dijon. Ça va pas faire plaisir aux supporters niçois ce que je vais dire, mais pendant 66 minutes, ce schéma, il a très bien fonctionné. Et je trouve qu'on est...
Moi, je suis absolument d'accord avec toi.
On est très dur avec Patrick Vieira dès le lendemain.
Non, pas ici en tout
pas
cas.
Pas ici, hein. Mais je trouve que les commentaires ont été assez sévères, et notamment sur ce schéma tactique.
Oui, mais Yann, le problème de notre époque, c'est de ne s'intéresser qu'au résultat.
Je suis d'accord avec toi. On ne s'intéresse qu'au résultat. Le résultat, il est catastrophique. 4-0 à la maison face à Dijon, 2 défaites à domicile, 1 seul point en 3 journées. C'est un bilan comptable qui est absolument mauvais. On va peut-être essayer, nous, de parler ce soir de ce qui s'est passé sur la première journée. Ça a été très dur pour Nice, un mauvais match face à Reims. Ça a été déjà beaucoup mieux face à Caen, avec un coup tactique. Une fois que l'équipe était menée, Patrick Vieira n'a pas hésité à faire rentrer un jeune joueur, Ganago, qui a égalisé. Il a changé son schéma tactique, ça a été beaucoup plus offensif. Et là, encore une fois, face à Dijon, pendant 66 minutes... C'est presque un miracle si Dijon n'est pas mené 1 ou 2-0 avant qu'intervienne l'ouverture du score dijonnaise. Alors, évidemment, si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide, je vais vous expliquer que la fin de match, à partir de l'ouverture du score, ça a été une catastrophe. Ça, c'est vrai. Les Niçois, ils se sont mis la tête sous l'eau. Ça a été un fiasco total sur la fin de match.
C'est ça, en fait, qui est le côté négatif de l'affaire.
Exactement.
C'est la façon dont mentalement tu réagis si tes intentions qui sont très positives et qui t'ont permis de te créer beaucoup beaucoup d'occasions très très nettes, le genre d'occasion qui te fait dire que tu pourras pas les rater deux fois tellement elles sont énormes.
Exactement.
Il y a après c'est l'engrenage négatif dans lequel tu peux te mettre en ne croyant plus exactement au schéma proposé, en te disant ça marche pas trop. Et en Ligue 1, le problème c'est que tu es souvent face à des équipes qui à l'extérieur se positionnent plutôt bas sur le terrain et savent exploiter cherchent en tout cas à exploiter les espaces. Et si tu te fais planter comme ça une fois, deux fois, trois fois, après tu peux perdre confiance. Et comme
avec un
Nice,
groupe très très jeune, avec un groupe très très jeune, Daniel,
c'est
l'explication de Patrick Vieira.
Voilà.
Tout de suite après le match face à Dijon, il a pointé du doigt le manque de caractère de son équipe et le manque d'expérience de son équipe. On va rappeler que la ligne d'attaque de l'OGC Nice, c'était Srarfi, Saint-Maximin, Maolida, 19 ans, 21 ans, 21 ans, c'est très jeune au milieu. Il y a des garçons comme Olivier Boscagli en défense qui ont 20 ans. Donc il y a très peu d'expérience, il y a beaucoup de jeunesse dans cette équipe. Il réclame du temps, Patrick Vieira. Je pense qu'il va falloir lui en donner. Et puis il y a un garçon qui revient dès vendredi, c'est Mario Balotelli. Sur un match comme face à Dijon, avec un Balotelli moyen, je pense que ça peut faire 2-0 à la mi-temps et on a un tout autre discours. Et je voudrais dire également qu'à la fin du match, il y a Olivier Dalleglio, l'entraîneur de Dijon, qui est venu en conférence de presse, qui est toujours très classe et qui a été je vais pas dire dithyrambique, mais qui a été assez élogieux envers l'équipe de Nice, qui a été assez lucide sur la prestation. Alors qu'il venait de leur mettre 4-0, il a dit le score ne reflète pas la physionomie du match.
C'était juste la réalité.
Ouais, c'était la réalité, mais tous les entraîneurs n'ont pas cette lucidité-là au sortir d'un match et en se présentant.
Quand tu gagnes 4-0, c'est plus facile d'avoir cette lucidité aussi. Hein.
C'est vrai aussi, mais t'es pas obligé de le faire.
Non, mais il y a juste un truc quand même sur le style Vieira. Juste le style Vieira, la possession, tout ça. Quand il était entraîneur aux États-Unis, avec donc le club de New York City, qui n'était pas le club qui avait les plus grandes stars. Hein. Alors il y avait David Villa, mais qui jouait un match sur trois globalement, enfin qui est peut-être pas là tout le temps.
Et Pirlo.
Il a quand même réussi à être assez vite là avant qu'il parte. Il était deuxième du classement. Alors il y a deux conférences là, mais enfin au classement général il était deuxième.
Non, mais il a eu des bons résultats.
Donc il avait des bons résultats, enfin pour son premier vrai poste en tant que numéro un, avec un style de jeu que tout le monde appréciait. Même si les Américains sont pas des super spécialistes.
Moi aussi j'ai eu plein d'échos là-bas de gens qui étaient avec lui, des joueurs qui ont joué pour lui et des gens qui observent la MLS, c'est vrai qu'il y a que des bonnes choses sur Patrick et sur après c'est pas la même pression quand tu viens en Europe, quand tu viens à l'OGC Nice, même avec les moyens qu'il a, avec beaucoup de jeunes et tout ça, t'as un devoir de
et surtout en Ligue 1 qui est un championnat particulier pour ceux qui essayent avec des équipes qui ne comportent pas de crack d'avoir de l'ambition dans le jeu, plus compliqué.
Moi, le bémol que je mettrais, parce que comme vous, j'ai vu les matchs de Nice. Alors le premier,
T'as regardé Nice-Dijon samedi soir, Jean?
Ouais, ouais, j'ai regardé.
Il était un peu...
En entier.
Et franchement, le résultat, comme vous l'avez dit, de façon tout ce que vous avez dit est vrai. Tu te dis, il y a eu après ce but une équipe qui s'est complètement disloquée. C'est un gros point noir quand même parce que ça montre le caractère d'une équipe. Quand tu prends un but, tu dois avoir des joueurs à l'intérieur qui, surtout avec la bonne prestation qu'ils venaient de faire, ils pêchaient dans le dernier geste ou l'avant-dernière, la dernière passe. Tu dois reprendre le dessus et il y a des joueurs qui doivent absolument éviter de sombrer comme ils ont sombré sur la fin de match. Donc ça, c'est un point noir. Après, moi, ça revient aussi à ce que j'ai fait dans mon avis de la semaine dernière sur les équipes qui veulent avoir cette fameuse possession de balle. Nantes est dans ce cas-là. L'OGC Nice.
Pour l'instant, ça marche pas.
Mais ça marche pas parce que en Ligue 1, et Daniel le disait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont regroupées. Alors je te dis pas qu'ils refusent le jeu, mais il y a aussi une différente
force de dire ça. Là, t'as fait ton avis là-dessus. Non, ça veut dire quoi? C'est en fait les équipes vont se battre pour ne pas avoir la balle. Maintenant.
Ça
va être compliqué quand même.
Non, parce que ça veut.
Non, garde là. Comment tu vas faire au bout d'un moment?
Mais quand t'es joueur de foot, tu veux avoir le ballon dans les pieds. Ça soit n'importe lequel. On est d'accord. L'entraîneur après, il a des principes de jeu. Il préfère aussi avoir la maîtrise du jeu, mais tu peux avoir une maîtrise du jeu plus claire avec beaucoup de verticalité dans le jeu et moins de redoublement de passes. Et c'est l'ensemble des équipes, je pense, de Ligue 1, elles sont comme ça.
Oui, bien sûr.
Et quand tu vas avoir cette fameuse possession de balle, ça peut marcher, ça marche dans certains championnats avec des grandes équipes, mais quand t'as une équipe moyenne, et là on le disait, devant l'OGC Nice, c'est moyen.
Ça joue depuis le début de saison, Jérôme, sans avant-centre, hein, parce que Scarfi, Saint-Maximin
tu as la finition, parce que t'as envie de croire forcément que contre Dijon, les occasions ratées, c'est à Balotelli, il en met une ou deux. Quoi.
Exactement.
Il y a une autre stat qui est intéressante sur ce match, c'est que Nice a tiré 16 fois au but.
Mais a cadré
3 tirs pour 0 but, alors que les Dijonais, ils ont cadré 5 tirs, ils ont mis 4 buts.
Mais ça revient à la qualité technique. Moi, je suis persuadé que Nice peut continuer, Patrick Vieira va continuer là-dessus, parce que c'est sa philosophie de jeu. Et c'est pour ça que, mine de rien, même si Balotelli est arrivé avec beaucoup de kilos de retard et tout, mais Balotelli va faire
Il les avait pas en retard, hein, il les avait en trop. En kilos.
T'es chez Aiguin demain, mec.
Ouais,
forcément, le journal moyen va pas te rater.
Donc, non, mais c'est pas grave.
Et
Balotelli, bien sûr que lui, le geste juste devant le but, le fait de cadrer ses frappes, il l'avoir plus qu'un Saint-Maximin, qu'un Srarfi ou d'un Maolida. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans le milieu de terrain, Lesmelo, Cyprien avant sa blessure, il était capable de mettre des bonnes frappes et de créer un petit peu le surnombre et d'avoir cette qualité technique un petit peu au-dessus de la moyenne, mais sinon, ils l'ont pas. Donc moi, j'ai bien peur que, mine de rien, tu peux avoir de la maîtrise dans le jeu, mais que pour finir les actions, ça soit compliqué. Et que, en plus de ça, si en plus tu manques de caractère, et dès que tu prends un but, tu sombres, les prochaines journées, elles peuvent être compliquées pour Nice.
Concluons ce dossier tactique avant de dire un petit mot du mercato niçois avec Stéphane au 32-16. Salut Stéphane.
Ouais, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Stéphane, est-ce que le style Vieira te plaît pour l'instant?
Pas du tout. Pas du tout, j'ai regardé les matchs amicaux depuis le début de l'été. Comme vous dites, la possession, on l'a tout le temps, hein, ça c'est vrai. Mais franchement, on a toutes les peines du monde à marquer un but.
Et ouais.
On a gagné contre Nyon, je sais plus, je crois que c'est une équipe suisse de D3 ou D4. Donc il y a pas, on va dire, il y a pas trop de mal entre guillemets. Mais après, c'est catastrophique dans le jeu. Dans le jeu, on arrive à. Oui, le ballon, on l'a tout le temps, oui, ça c'est vrai. Mais se procurer des occasions, on n'y arrive pas. Il y a que ça m'a
fait. Contre Dijon, des occasions, on a eu 1000.
Non, mais tiens, ouais, on va dire oui, si vous voulez, oui.
Ah bah, si vous voulez, oui, t'as des occasions, les mecs qui sont tout seuls devant le but, ils mettent à côté, si c'est pas des occasions, c'est quoi?
Ouais, d'accord, oui, il y a eu Maolida.
Laisse Melou tout seul devant le but, Maolida, il a deux énormes occasions, ils ont tous des occasions.
Non, mais contre Dijon,
pas que nous, t'en as eu plein.
Non, je suis d'accord, mais contre Dijon, je veux bien, mais les autres matchs, vous avez regardé? Les autres matchs, il y a que Saint-Maximin qui est capable de dribbler. Devant, il y a des fantômes devant. Après, faut pas oublier qu'on a perdu un mec comme Seri au milieu de terrain. C'était notre métronome. Ils ont voulu le remplacer par Danilo, mais Danilo, on l'a vendu comme un joueur super machin, mais il casse pas des briques, Danilo. Franchement, il casse pas des briques. Et je comprends pas comment on met un mec comme Souquet remplaçant, enfin, hors du groupe, alors qu'il est trop fort. Après, pareil pour le gardien.
Il va peut-être partir,
Lucien Favre, ils en voulaient pas de Cardinal. Il arrive, il met titulaire, mais c'est un désastre, Cardinal. On dirait moi dans la cage. C'est un désastre.
Ça, par contre, Stéphane, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a des postes clés dans le football. De toute façon, que t'aies la possession, pas la possession, je pense que ta colonne vertébrale, c'est très important. Les défenseurs centraux te montrent aussi la grinta, la personnalité. On en parlait tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain, et ça fait partie de ça. Et aussi tes milieux de terrain. Devant, tu dois avoir des joueurs de classe pour finir, pour marquer des buts, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football, c'est de finir les actions. Et ça, ce joueur de classe. Eh ben ils peuvent l'avoir s'il est bien dans sa tête avec Balotelli, mais pour l'instant ils l'ont pas. Et puis le dernier rempart, le gardien. Moi j'ai vu les buts. Alors il est pas tout seul, mais rien que le but de la tête là, c'est le deuxième ou le troisième là de Dijon ce week-end. Voilà.
Il est au cinquième. C'est le premier but, mais le but après c'est le but. C'est pas le but de la tête, c'est le but de l'épaule.
Ouais, de l'épaule. Ouais, mais attends, mais c'est l'attitude qu'il a.
On dirait un gardien de district. L'attitude qu'il a.
Là c'est compliqué. Là c'est compliqué.
Oh non.
Et imagine quand t'es défenseur.
Non mais l'attitude qu'il a, elle est énorme. Vraiment.
Stéphane, merci pour ce point tactique. Reste avec nous pour parler un peu mercato. Est-ce que y a des infos et des arrivées qui peuvent se faire avant vendredi soir, Yann, à Nice?
Pas forcément. C'est pas certain. On a beaucoup parlé d'Atem Ben Arfa, mais Atem Ben Arfa à Nice, le retour de Ben Arfa à Nice, c'est un peu le retour de Drogba à l'OM. Je pense que on y aura droit tous les mercato été comme hiver, jusqu'à ce qu'Atem prenne sa retraite sportive.
Si ça finit comme Drogba, il reviendra jamais. Donc voilà.
C'est possible. Donc
et Trapp?
Et non, j'y crois très très moyennement. Également, il est possible qu'il y ait pas d'arrivée du côté niçois. Vous parliez de Souquet, lui, c'est possible qu'il s'en aille. Par contre, Arnaud Souquet. On a beaucoup parlé de Rennes, c'est une piste possible pour lui, mais je veux pas être décevoir les supporters de l'OGC Nice, mais il est possible que le mercato niçois en termes d'arrivée soit terminé.
Ben voilà, mon petit Stéphane.
Ben, c'est une catastrophe. Ce que vous m'annoncez, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les dirigeants, et franchement, c'est à la limite du professionnalisme. C'est une véritable catastrophe. De prolonger un mec comme cardinal, c'est un manque de professionnalisme. Franchement, c'est un désastre.
Après, on va leur laisser un peu de temps quand même, parce que tout n'a pas été facile. Je parle en général, pour Patrick Vieira, il y a du talent. Maoulida, il a raté des occasions, mais c'est bien ce qu'on a vu quand même de la part de ce jeune garçon qui a 19 ans. Ça peut être une révélation. Willian Cyprien au milieu de terrain, s'il retrouve son niveau qu'il avait avant ses croisés. Enfin, il y a quand même pas mal d'espoir autour de cette équipe. Alors, c'est vrai que c'est un début de saison très compliqué pour l'OGC Nice, c'est un peu la sinistrose au niveau des supporters avec cette équipe. Moi, je voudrais quand même mettre un peu d'espoir autour de cette équipe de l'OGC Nice et dire que, alors tout à l'heure vous parliez de pression, je pense déjà que Patrick Vieira au niveau de la pression, c'est pas un perdreau de la veille, et je pense qu'il est capable d'assumer cette pression là. Et puis dire aussi qu'à Nice, parfois ça a été compliqué pour certains coachs, Claude Puel qui a connu des séries très difficile avec cette défaite d'affilée. On lui a laissé le temps
pour
Lucien Favre également. Et je pense que.
Est-ce que tu penses, Yann, que River est le genre à ne pas laisser le temps?
Bah non, pas du tout. C'est ce que je te dis. Donc, voilà. Je pense que Patrick Vieira, pour ça, il est dans le bon club. Je pense qu'il en est conscient. Il y a une question qui lui a été posée aujourd'hui par un journaliste. Il a ouvert de grands yeux, parce que au bout de trois journées, quelqu'un lui a demandé si il avait toujours la confiance de ses dirigeants.
Ah, bah attends, je te coupe. La réponse de Patrick Vieira.
Voilà.
Avec le président ou avec Julien, on s'appelle, on discute, on parle des résultats, on parle du contenu du match, on parle de l'état physique, mental des joueurs, on discute de comment je vois le groupe, des joueurs individuellement, et c'est tout. Après, faites quand même culotté de poser la question quand même.
Voilà la réponse.
Non, mais il a raison, c'est très bien, belle réponse de Vieira. J'espère qu'il aura le temps, quoi.
Ouais, je vais juste conclure en remerciant Jérôme Thomas, qui est un homme de goût et qui connaît la valeur des performances et qui m'a mis un excellent synthé, parce que je suis en train de regarder les images en même temps.
A gagné le tournoi de paddle de Cassis.
Ah ouais? Tu joues bien au tennis, Yann?
J'ai complètement abandonné le tennis, je suis vraiment parti dans le paddle.
Ah, et depuis combien de temps tu joues?
Un an.
Ouais, je m'y suis pas du tout mis, moi.
Il va falloir s'y mettre.
T'en fais pas.
Et tu peux en parallèle du tennis jouer à ça et.
Ouais, ce sont deux sports totalement différents.
C'est pour ça, donc ne joue pas au paddle. Non, parce que si tu joues au paddle, tu vas arrêter le tennis.
Non, mais non, mais c'est bon.
En même temps, le paddle contre Jean-Pierre Bernès et Gentil Gala, heureusement que tu gagnes. Y a...
Non.
Il y a qui? Il y a Cassis, il y a Jean-Pierre Bernès.
Non, il y a un très bon club de paddle à la Presqu'île à Cassis.
L'autre aussi nous vend le club de paddle de Cassis. Ils étaient quatre à faire le tournoi.
Non. Club d'ailleurs dans lequel jouait Didier Deschamps. Hein. Didier Deschamps mordu de paddle. Maintenant, il est à Beau Soleil, mais il venait à Cassis avec Jackie. Jackie qui est toujours là. Il venait jouer au paddle à la Presqu'île à Cassis.
Bon. On salue Jackie. Voilà. Salut Yann.
Ciao, bonne soirée.
Merci beaucoup. Gratuitement là-bas.
Dans quelques heures. Bah là, maintenant que Jackie a été cité, je crois que c'est réglé. Dans quelques instants, des infos mercato concernant Rennes, mais aussi concernant Lyon qui s'est mis d'accord. Je vais vous faire le teasing de ouf. Hein? Lyon s'est mis d'accord ce soir avec un attaquant très courtisé. Vous saurez tout dans quelques instants dans l'after. Ah, si vous restez là, pas, c'est à désespérer.
RMC, le football show, l'after foot, Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à minuit, il est 23h30, le timing est respecté, c'est la classe. On avait annoncé en début d'émission et voilà, bam, ça tombe. Daniel Riolo, Jérôme Rotten. Il est là, Fred. Il est là. Mais juste avant, j'aimerais vous donner notre petite info mercato comme promis. Vous dire que ce soir.
Il y a Daniel et puis qui encore?
Salut Fredo.
Ah salut.
Ça va?
Il est là.
Hola Ticos.
Ça va?
Bah ouais.
Alors Fred, bouge pas, j'ai deux trois infos mercato avant de te donner la parole.
Ah bah c'est lui le mercato du Real là qui quand même
il est au courant.
Tiens, enfin,
ah
ça
bah
perle.
Oui mais j'avais pas
la perle qu'on attendait.
J'ai
au
des
Real,
trucs encore plus frais que Mariano, ça a été officialisé en début de soirée. Là j'ai encore plus frais. Ce soir, Lyon se met d'accord avec Moussa Dembélé.
Ah.
Info annoncée par l'équipe il y a quelques minutes. Mm-hmm. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'OM n'a fait aucune offre pour Moussa Dembélé, alors qu'il y avait des rumeurs qui disaient que.
C'est normal, en même temps, il voulait pas d'avant-centre. Voilà. Il n'a jamais voulu d'avant-centre.
Dans la journée, il y avait des rumeurs qui disaient que l'OM et l'OL s'intéressaient à Dembélé.
Alors, c'est la rumeur qui a fait courir Jean-Michel Aulas pour genre faire croire que Lyon est plus fort et réussi à prendre le joueur que l'OM n'a pas pu prendre.
Ah, tu penses que ça s'est passé comme ça?
Ah ouais.
C'est étonnant ça.
Tu crois vraiment que Jean-Michel Aulas c'est le genre à essayer de faire passer l'OM pour des cons?
Alors attention, je précise. L'OL est d'accord avec Dembélé, maintenant il faut qu'il trouve un terrain d'entente avec le Celtic. Voilà, Dembélé n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Bon, ça semble quand même plutôt bien parti dans cette affaire. Autre info concernant Rennes. Mbaye Niang pourrait être prêté à Rennes dans les heures qui viennent.
Il va falloir le gérer lui après. Hein.
Prêt avec option d'achat concernant Mbaye Niang à Rennes.
Ça veut pas dire qu'il a laissé un grand souvenir en Italie.
Selon nos informations, Rennes serait prêt à lui réserver 4 places de parking sur le parking des joueurs afin de ne pas avoir de problème de rayures et de créneaux.
Ouais. Et Ben Arfa en prime, Mbaye Niang et Ben Arfa.
Alors Ben Arfa, la tendance du jour, c'est qu'il n'y a pas de tendance. C'est-à-dire que les pistes et Rennes et Nice sont gelées.
D'accord. Bon, peut-être il cherche un poste de consultant, Ben Arfa, il arrête sa carrière.
Tu vas arrêter,
c'est quand même bien.
Non mais attends, ça se trouve.
Il y a ton ancien club qui est remonté en D1 en Turquie, en Garagoutchou.
Oui,
ex-club de Charles-Édouard Coridon, de toi, et de Bakary Koné.
On le sait, mais non.
Et moi, j'ai mes infos en spécial Turquie par le biais du Sein, notre ami.
Comment il s'appelle, J'ai joué avec son frère, en plus, Sabastia.
Qui joue?
Fatih.
Ricardo Fatih ou Jacques Fatih?
Jacques Doudou Fatih, il a arrêté.
Il joue plus.
Il peut plus.
Mais il est en Australie.
C'est son frère.
Ricardo Fatih. Il joue à Nantes.
Je pense que si je dis pas une connerie, je crois que son frère a signé là-bas.
Très bien. Au niveau mercato, avant de donner la parole à Fred qui va nous expliquer tous les dessous.
Pour savoir s'il fallait le prendre.
De l'affaire Mariano. T'as toujours tes entrées en Caragoutchou, toi. Nicolas Pépé, petite info d'Edouard G, n'ira pas à Lyon. Alors Lyon le voulait. Sauf qu'en fait, bon, Pépé voulait absolument rester à Lille. Il vient d'acheter une maison sur place et puis lui il veut faire une saison complète à Lille avant de partir. Il voulait pas partir comme ça, voilà. Et alors ce soir, il y a également des tractations concernant Maxwell Cornet. Son agent est en Allemagne pour aller à Wolfsburg, mais il y a apparemment un intérêt également de Séville. Et vraisemblablement, Cornet préférerait Séville à Wolfsburg. Alors à suivre.
En tout cas, Lyon, ils ont vraiment bien vendu. Ils ont pris beaucoup d'argent de leur vente. Bon, il y a un réinvestissement là avec Moussa Dembélé. J'espère que d'ici vendredi, ils peuvent choper encore un ou deux mecs, parce qu'avec ce qu'ils ont vendu, certes, les actionnaires vont être très contents et Micheline à la compta va faire des bons de cabri.
S'ils avaient la bonne idée de recruter un milieu de terrain.
Ce serait bien que s'ils prennent un milieu de terrain, ouais, là, à Lyon, ouais, ça peut devenir quand même un peu plus sérieux.
Déjà, ils ont
pour
un
jouer la Ligue des Champions et le championnat. Ben oui.
Un effectif pour.
Là, si tu prends, là, pour l'instant, il n'y avait pas de neuf. Là, il y en a un. Ouais, si ouais, avec l'oseille qu'ils ont bien ramassé, ils prennent un milieu de terrain. Pour ce qui est du défenseur, ça a été pris puisque Denayer. Là, ça commence à devenir avoir un peu plus d'allure quand même. Certes, ils auront attendu le dernier moment, mais quand même.
Sinon, avant d'arriver à Diaz,
tu diras, attends, le Real a attendu aussi le dernier moment pour enfin recruter sa star,
la perle.
Ouais, Vassiliev dit. Vassiliev dit, le mercato n'est pas clos. Dit Vassiliev aujourd'hui. Il dit, on est attentif au marché, mais on n'effectuera pas de transfert à n'importe quel prix. S'il y a une opportunité, je vais la saisir. Dit
Vassiliev. Ça sent qu'il va y avoir un coup, ça.
Ouais. Ça sent le petit coup de fin de mercato monégasque.
Ils en auront peut-être peu besoin, même s'ils ont fait signer à Heinrich, là.
Heinrich.
Heinrich.
Ouais. Heinrich. Voilà.
Avec, qui va donc jouer avec Goebbels.
Exactement.
Ah, c'est pas mal, ça.
C'est pas mal. Bah, tu sais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande était bien implantée à Monaco. Quand même.
Ah bah là, en l'occurrence...
Très bien implantée.
C'est pas eux qui avaient créé la première version d'RMC ?
Tout à fait.
Exactement, et alors ?
Les premiers émetteurs d'RMC ont été installés par l'armée allemande. Et puis voilà pour le mercato, et on en arrive donc à Mariano Diaz, qui rentre à Madrid. Voilà.
Donc le Real a enfin pris sa perle. Chaque année de Coupe du Monde, de toute façon, ils prennent un mec qui a brillé à la Coupe du Monde.
Exactement.
Et selon Fred Hermel, que j'ai entendu tout à l'heure... C'est une excellente nouvelle.
Ah bon?
Ah bon?
Bah oui.
Bah il va nous dire pourquoi.
Ah bah ouais, on est curieux.
Je pense que c'est une excellente nouvelle pour l'Olympique Lyonnais et pour le Real. Déjà l'Olympique Lyonnais, ben
pour Benzema déjà c'est bien.
Oui, ça aussi, c'est clair. 8 millions, ils revendent 22. Alors, je vais quand même vous expliquer un petit truc par rapport à ça.
Alors oui, raconte parce qu'on parle de 30, donc je j'ai pas tout compris moi.
Non mais non c'est moi, non c'est 22 parce qu'il y a une clause de rachat.
Alors, en fait, ce qui se passe, l'OL, c'est le communiqué de l'OL. L'OL dit, voilà, Mariano Diaz part pour un montant de 33 millions, dont 3 millions d'incentives liés aux qualifs européennes du Real, duquel sera déduit 35% de la plus-value réalisée par l'OL sur le transfert. Donc, en fait, il dit 33 millions, il faut enlever 35%, donc ça fait 22. Voilà. Et l'OL percevra 15 millions lors d'un éventuel futur transfert de Mariano Diaz.
Exactement. Mais ça, c'est des choses qui sont assez souvent d'ailleurs quand les joueurs sont revendus. Ce qui est fort possible que ça se passe dès la saison prochaine, si le Real fait le gros coup sur le marché qu'il avait envie de faire cet été, mais qui n'a pas été capable de.
Enfin, il y a quand même qu'au Real que t'as un mec chez toi que tu vends en estimant qu'il était pas bon pour le racheter.
Ouais, mais sauf qu'à l'époque, il faut expliquer. Il y a deux choses à expliquer. À l'époque, il y avait Morata qui était l'attaquant. Et puis Zidane n'aimait pas trop Mariano. Moi, je l'ai connu Mariano quand il était au Castilla avec Zidane. Et Mariano, c'est un joueur. Qui dès qu'on le mettait titulaire deux matchs de suite, ben après il sifflait plus rien. Donc et ça, Zidane considérait que c'était pas le remplaçant dont il avait besoin sur le banc. Et puis j'insiste, il y avait Morata.
On va salir la mémoire de Zidane alors en le reprenant.
Non, mais non, pas du tout. Non mais je t'explique. Donc il y avait pas besoin de Mariano. Il se trouve que en plus, vous vous souvenez de Pintus?
Oui.
Pintus, quand il est venu il y a deux ans, il venait de signer un contrat avec l'OL. Et il avait un CDD, l'OL lui a proposé un CDI. Mais on sait très bien que Jean-Michel Aulas et Florentino Pérez sont très amis. Ce sont deux hommes qui s'admirent.
Ah, ça veut dire que là, il lui a refilé un petit pourboire.
Mais c'est-à-dire que Mariano avait été vendu pas cher du tout, 8 millions l'année dernière.
C'est pas ce qu'il valait, c'est ça que tu veux dire.
C'était une manière de renvoyer l'ascenseur pour le fait que l'OL avait lâché sans problème Pintus, qui était l'objectif numéro 1 de Zidane. Voilà, ce sont deux clubs qui s'entendent très bien. Vous vous souvenez à l'époque où il y avait des clubs européens, le Real et l'OL étaient toujours très entendus. J'ai 14, ouais, ils étaient vraiment ensemble et tout ça. Donc voilà, ce sont deux clubs qui s'entendent bien. Et moi, je suis persuadé que demain, ils vont encore tomber dans le même groupe parce que c'est historique que l'OL et le Real soient en phase de groupe ensemble.
Ça, c'est déjà passé 3-4 fois dans l'histoire. Plus globalement, même si quand t'es 3 fois champion d'Europe, t'es un petit peu intouchable. Mais comment c'est vu en Espagne, puisque cet été, donc, et tu t'étais fait l'écho de tout ça, donc le Real devait absolument prendre Neymar tu nous as assez répété que c'est, ça devait se faire et tout.
J'ai pas dit que ça allait se faire. Attends, j'ai pas dit que ça allait se faire. Je disais que le Real voulait faire Neymar.
Oui, enfin, qu'il voulait, machin. Mais non, quand, généralement, il y a eu une époque où quand le Real veut, le Real fait.
Oui, sauf que, donc ensuite, il y a As. Il y avait le PSG.
Oui, bah ensuite.
Non, mais moi, tu me parles pas de As, quoi. Enfin,
excuse-moi.
Je parle de l'Espagne. Non, mais tu parles pas des journaux espagnols.
Je te parle de l'Espagne.
Je suis très fier de chroniquer, d'avoir une chronique dans ce journal.
De ce qui se passe en Espagne ou pas?
Oui, voilà. Non, mais après, il y a
un laisse-moi poser ma question. Tu me laisses pas poser la question.
Allez, vas-y, vas-y.
Bon. Donc Neymar, donc ensuite As met Mbappé à la une, on va le prendre machin, et à l'arrivée il se retrouve avec un mec qui a racheté un mec plus cher, un joueur vendu l'année d'avant une bouchée de pain.
Alors on va expliquer les choses.
On reconnaît que c'est un peu bizarre pour le Real.
Mais c'est très facile à expliquer. Alors As disait pas ça. As disait ou Mbappé ou rien. En gros, est-ce qu'il y a si
donc
il y a décision,
rien,
attends, s'il y a une décision de l'UEFA qui oblige le PSG à rompre l'accord avec Monaco, c'était un fantasme. Je l'ai expliqué là l'autre jour. Un fantasme des Espagnols qui rêvent de Mbappé et ils espéraient qu'il y ait une décision de l'UEFA sur le fair play financier qui oblige le Real à vendre Mbappé ou à vendre Neymar. C'est ça en fait. C'était la seule manière.
Mais comment on explique aussi peu d'action sur le marché?
Alors,
et à trois jours de la fin, prendre Mariano Diaz que personne ne voulait, qu'on rachète plus cher qu'on l'a vendu.
Voilà.
Même si c'est pas la première fois qu'ils font
tout
ça.
Tout simplement, le Real avait besoin d'un remplaçant sur le banc, un bon attaquant. Ils ont sondé le marché. Mais c'était 120 millions. Par exemple, Rodrigo Moreno, le préféré de Lopetegui, l'attaquant de hispano-brésilien de Valence, sa clause c'était 120 millions. Et Valence a dit non, c'est la clause ou rien. Voilà. Et le Real Madrid est prêt à dépenser 300 millions sur un Mbappé ou sur un Neymar, mais ils veulent pas mettre 120 millions sur un joueur qui considère moyen. Voilà, un attaquant moyen.
Non, mais plus globalement, donc, dans la politique globale du Real.
Le Real est prêt à claquer beaucoup d'argent sur une grande star, mais pas à se faire avoir à 120 millions sur un joueur moyen.
Pourquoi ils sont pas allés chercher Salah? Pourquoi ils sont pas allés
Parce que
le Real, il le faisait ça. Moi, c'est la politique globale qui m'intéresse.
Parce que les mecs demandent 200 millions. Et que le Real considère qu'il n'y a que deux joueurs au monde pour lesquels on peut casser sa tirelire, ils sont Neymar et Mbappé, c'est tout. Eden Hazard voulait le Real en voulait. Sauf que Chelsea demande 220 millions. Et le Real a dit, on va pas payer 220 millions pour Hazard.
Mais avant, ils cassaient tous les prix,
oui,
le Real, ils étaient prêts à tout faire.
Mais sauf qu'ils ont gagné 9 titres en 2 ans et demi. Ils ont gagné 4 des dernières 5 Ligues des Champions. L'urgence, elle est quand même pas... Si le Real avait tout perdu ces dernières années, ils auraient tout dépensé ce qui était possible. Sauf que là, et puis il faut pas oublier que Gareth Bale a été acheté il y a 5 ans pour être le successeur de Cristiano Ronaldo. Donc ils sont prêts aujourd'hui à donner un an à Gareth Bale pour démontrer qu'il peut être le successeur de Cristiano Ronaldo. Et donc là, simplement, ils voulaient un attaquant sur le banc en cas de blessure de Benzema ou de Bale, un joueur... Parce que Mariano, en fait, il est très bien quand il sort du banc à 20 minutes de la fin, il te met une trappe de mule, il te met un but, voilà. Parce qu'il y avait que le jeune Borja Mayoral. Donc Lopetegui a dit au président, j'ai besoin d'un joueur, et c'est vrai que Mariano, c'est quelqu'un qui coûte pas cher, 22 millions par rapport au prix sur les marchés, et puis surtout c'est quelqu'un qui connaît la maison et qui dès demain, enfin il va être présenté vendredi, il sera à l'entraînement, il peut même jouer samedi si le Real en a besoin, quoi. Donc c'est exactement ça. Mais le Real, ils sont pétés de thunes, mais ils veulent pas dépenser leur argent pour n'importe qui. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
Bon, en même temps, ils ont bien raison. Fredo, merci.
Tout ça ne nous dit quand même pas comment t'as pu à ce point rater tes vacances.
Ah oui, c'est vrai que tu sais que je reçois plein de messages sur la Grèce. Mais tu sais que je viens de parler
Non, mais attends,
de...
Jérôme et Gilbert
sont pas au courant.
T'étais où alors
Parce que j'ai passé une semaine à Athènes
et t'es allé où sur quelle île t'es allé là-bas, là?
Non, mais c'est un truc qui s'appelle Athènes, tu sais, la capitale. Oui, on visite le temple de Zeus, le Parthénon.
Ah, oui, mais bon, Traverman a choisi de rester une semaine bloquée.
Ah oui, t'as débriefé par Riolo, toi.
Non, parce que regarde, demande à Gilbert, t'as passé où tes vacances?
À Athènes. En Grèce.
Et alors, qu'est-ce que t'as fait à Athènes? Combien de jours?
Bon, 3-4 jours. 3 jours, 3 jours et demi.
3 jours.
Et moi, j'ai fait 6 jours.
Et derrière, qu'est-ce que t'as fait?
Je suis dans les îles.
Bah ouais, forcément. Bah, Fred Armel, il a pas fait, lui.
Non, mais moi, je vais défendre Fred.
Donc, je maintiens la théorie que Fred Armel a raté ses vacances.
Moi, j'adore Athènes. Donc, je défends Fred.
Les gens sont hyper sympas, les bars sont... Le quartier de Gazi, l'ancien, à côté de l'usine de gaz qu'il y avait.
Avec quand tu... T'as fait le dîner sur la nacelle, là?
Non, parce que j'ai le vertige, donc je fais pas.
Ah, il y a un truc, il faut un dîner sur une nacelle.
Mais attendez, excusez-moi. On ne peut pas ne pas bouger, ne pas aller...
Mais je suis allé à Aegine dans la journée, l'île d'Aegine. J'ai fait ça dans la journée, c'était
bien. Ah, bah, il l'a fait, Aegine. Voilà, c'est une île, ça. Pourquoi tu l'auras pas dit, Fred?
Ah ouais, c'est pas dit. Bon, enfin, moi, je...
C'est C'est lui, il a une plus belle plage.
Daniel, je viens de parler de toi. Je viens de parler de toi en bien. Parce que lundi, Daniel se disait, mais... Il hallucinait, je comprends, par tous ces gens qui dans le monde écoutent l'After. Et tout à l'heure, j'ai pris une bière avec deux jeunes Français qui s'appellent Cédric et Thomas, qui sont des auditeurs historiques de l'After.
Et tu leur as expliqué comment t'as raté tes vacances.
Voilà, exactement. Et en fait, ils lancent le football à 5, là, les trucs, les urban foot et tout ça en Espagne. Mmh. Voilà. Et donc, ils voulaient me rencontrer tout ça. Et on a beaucoup parlé de l'After. Et c'est vrai qu'il y a une communauté de l'After dans le monde qui est assez impressionnante.
Ah, ça,
donc,
oui.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez. Donc, pour une fois, je suis d'accord avec Daniel. Même en Grèce, même si je suis resté qu'à Athènes, eh ben, on va aussi parler de l'After, tu vois. Donc,
Fredo, merci beaucoup.
Bon, bah, à demain
pour le tirage de sort, S'il y a s'il y a de la confrontation franco-espagnole, mais il y en a toujours.
J'ai demandé à David,
Lyon-Réal encore. Ouais, il y a la marre des Lyon-Réal.
Dis donc, il y a, David Lorto, il mise sur un 50% huitième de ses quatre équipes. Tu mises sur un combien, toi, de tes quatre équipes? En huitième.
En huitième?
Ouais.
Ah, mais moi, 100%.
Mais il y en a raison. La meilleure Liga du monde. On en a fait un t-shirt qui cartonne. Tu les as reçus d'ailleurs, Fredo?
Non, je l'ai pas reçu encore.
Oh là là.
Attends, oui. Le caca, tu es nul et la Liga espagnole.
En plus, il y a que toi sur les t-shirts, donc.
Mais oh,
personnage historique.
Fred, c'est 18 ans d'RMC, Fred Hermel.
Bah ouais, toi, ça fait combien de temps, Jérôme, que t'as RMC?
Mais c'est pas une question de temps.
Non, mais si.
T'auras ton t-shirt
pas
long,
t'inquiète
pas.
C'est une question de qualité à l'antenne.
Bah ouais, bah.
Qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais, beau faire 20 ans, 25 ans, si tu dis que des conneries depuis 20 ans, 25 ans.
Ce sont des phrases prononcées par Hermel. Eh ouais.
Hein, bah ouais, non, mais c'est, ouais.
Et en plus, j'ai un pourcentage.
Si t'en es fier de certaines, en plus, c'est grave.
Il y a un pourcentage sur leurs ventes, mais comme ils sont gratos, ça peut me rapporter beaucoup. Merci Fredo!
Adios, Ticos!
Bonne soirée! Bravo.
Attends, il y a rumeur Dybala au Real de dernière minute, là.
Pipo.
D'accord.
Non, mais attends, franchement, tu crois qu'ils avaient la possibilité de prendre Dybala, ils auraient pris Mariano?
Bon, c'est pas le même poste,
Ouais, mais enfin, attends, voyons. Moi, le Real veut pas trop dépenser, comme ça dans un an ils ont de nouvelles attaques pour essayer d'avoir Neymar ou Mbappé. Voilà.
C'est fou de s'accrocher à ces deux-là alors que tu les auras jamais.
Mais c'est les deux grandes stars au monde. Franchement, libre aujourd'hui, il y a qui comme grande star?
Libre.
Pas libre, mais aujourd'hui si tu dis tu veux engager un joueur, une grande star qui n'est pas
Cristiano. Daniel le disait,
s'il refait la saison de l'année dernière, ça quand même fait une saison hors du commun, mais bon, est-ce qu'il a réellement lui une sorte de profil de star?
C'est pas encore Mbappé,
parce que le Real, il faut pas être simplement un super joueur, il faut y voir une allure de star. Est-ce que bon,
et Harry Kane?
Non, alors Harry Kane, il plaisait bien,
c'est différent. Harry Kane,
le problème, c'est que les Anglais,
c'est pas
il fait un peu trop chaud. Je trouve qu'il a trop une tête d'anglais, Harry Kane.
Non, mais
je le vois rougir en septembre et jamais se remettre un coup de soleil, Harry Kane.
Vous vous souvenez de Jonathan Woodgate?
Ah oui, le pauvre Woodgate.
Il était en blessé, le pauvre.
Mais c'est ça. Et donc, les Anglais ont du mal à s'adapter ici.
C'est comme ça, j'aurais jamais imaginé Rooney. Même quand moi qui adore Rooney, même Rooney au sommet de sa forme, je l'aurais jamais imaginé en Espagne, en Italie.
Et McNamara, comment il s'appelle celui-là?
Les joueurs, ils sont trop ancrés culturellement.
S'ils transpirent, c'est pas bon.
Culturellement, ils peuvent pas bouger.
Salut. Deux, trois petits tweets, les gars. Juste Armand qui nous a fait le tirage au sort, revoir ses ex du PSG. La Roma avec Pastore, Valence avec Guedes, et les Young Boys de merde avec Oaron.
C'est pas mal.
Dans quelques instants, le retour des génies de l'After. On vous expliquera le concept dans quelques minutes, et puis d'autres infos. Et puis le quiz, bien sûr.
Oula, quiz.
RMC, le football show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, attention messieurs, dames, poil vite. Le quiz arrive, mais d'abord quelques infos encore. Vous dire que Lyon a prêté Martins Pereira ce soir à 3. Vous savez, l'international luxembourgeois.
Le mec avait été recruté suite au Luxembourg-France.
Exact, prêté à 3. Et puis quelques infos strasbourgeoises.
C'est vrai qu'il avait été bon ce jour-là. Il a été énorme.
Il a fait un gros match. Mais il va jouer à 3. Strasbourg a recruté Kawashima, l'ancien gardien de Metz, le japonais. Donc pour être deuxième gardien.
C'est à toi de nous dire si t'es content.
Bon, écoute, il va pas jouer. C'est Cels, très bon, très bon. Gardien, Cels, le grand belge.
Attends, mais.
Et on parle de Motiba et Engie.
Attends,
devant.
On te pose la question.
À Strasbourg.
Engie à Strasbourg? Mais genre, ils l'achètent?
Bah, ou alors ils se le font prêter, je sais pas.
Ils ont l'oseille pour acheter des mecs.
Ça peut ressembler à un prêt.
Ils l'acheter, ça, c'est. Mais.
Il n'y a pas plus d'infos là-dessus, mais c'est les noms qui circulent. Motiba de Lille et ou Engie de Marseille.
Ouais. Non, mais pourquoi t'es pas honnête sur le gardien? Bah,
Kawashima, moi, l'année dernière, il m'a pas plu du tout.
Ah, hein. Bah voilà, bon, bah, sois honnête. C'est ce que tu nous disais en,
sorti,
pendant la pub.
Sorti, là, il arrive pas à sortir.
Après, c'est un deuxième gardien. Est-ce que
bah,
c'est.
Voilà, moi, c'est pour ça que tu dis
est-ce
ça.
Est-ce que ça améliore, c'était bonne foi, là?
Non, c'était Camara.
Ah, mais l'année dernière, c'était bonne foi, là.
C'est le troisième, bonne foi,
oui, mais il était passé deuxième parce que
l'autre était blessé, Camara.
Bon. Il s'améliore de ce côté-là.
Kawashima, c'est mieux que bonne foi.
Donc là, en gros, les gars, je te confirme. Donc là, les gars, vous vous êtes dit, on va faire 10 minutes un débat sur le deuxième gardien de Strasbourg.
25
là.
Secondes, calme-toi.
Parce que là, quand même, quoi.
J'enchaîne.
Je vous écoutais, c'est deuxième gardien de Strasbourg, vous faites 5 minutes là-dessus.
Vrai, c'est vrai que c'est j'enchaîne. Autant pour moi, là, on s'oublie.
9 ans de prison pour.
Franchement, on est parti loin, là.
9 ans de prison pour Juan Angel Naput. C'est la suite du FIFA Gate. 9 ans de tôle, quand même, le gars, hein. Pour corruption, prise de pot de vin. Donc, procès qui a lieu à Manhattan. C'est l'ancien président de la CONMEBOL, la Confédération sud-africaine de football. C'est une petite info du jour. Ah oui, et puis attendez, autre info. Enyama, ce soir, très proche d'Auxerre, le gardien de Lille, qui était au placard. Ouais. Ces derniers mois, voilà, il pourrait signer à Auxerre dans les jours qui viennent. Auxerre, ils voulaient faire venir Kameni, l'ancien gardien de la sélection camerounaise, enfin qui est toujours d'ailleurs avec le Cameroun, finalement donc ça a pas pu se faire. Messieurs dames, nouvelle chronique dans l'after. Vous vous souvenez du top 50? Eh ben le top 50 revient, mais il ne s'appelle plus le top 50. Il s'appelle maintenant les génies de l'after. Jingle.
T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un QI d'au moins 160!
C'est les génies de l'after. Avec la musique d'Aladin, tout ça, tu frottes la lampe, t'as les génies qui sortent. Hop. Attention, un double génie, messieurs, dames, notre ami Samuel Hipois. Qui a fait un bon été mais qui a un peu craqué sur la fin avec deux entrées j'ai mort de rire lui Jérôme.
Non, moi j'ai pas écouté donc je rigole.
Attention,
pas, je ne sais pas.
Samuel qui nous parle de Bédoué.
Bédoué, je trouve que bon, ben, je crois qu'il en a marre de faire le service de pompier, je crois qu'il en a marre aussi de savoir qu'il va pas être dans la continuité.
Voilà, donc le pompier de service, c'est le service de pompier. Ça, c'est gentil. Deuxième, Samuel Hipois.
Donc les gars, vous êtes allés chercher loin. J'avais même pas compris ce que vous vouliez dire là.
Je crois que t'avais pas compris ce qu'avait demandé.
Ça, c'est rigolo. Ça.
Deuxième, Samuel Hipois.
Mais moi, je pense que un Bordeaux aurait préféré. Moi, pour moi,
tu
Bordeaux.
Tu voulais quoi, genre un Frédéric Hans, René Girard,
ou un Pascal Gourvennec. Un Pascal Duprat aurait été bien pour cette équipe Bordeaux.
Ah ouais. Moi je dis rien parce que Sam j'aime bien.
Moi aussi j'adore.
Ah ouais,
mais là, non.
C'est quoi
un génie.
Ces résolutions de l'année. Je dis rien parce que Sam j'aime bien, mais quel focus.
Parce que de toute façon tout le monde sait ce que je pense, donc ça sert à rien d'en rajouter.
Voilà, mais
ça sert à rien d'en rajouter.
C'est bien. Elle
a même pas comment ça a pu lui arriver à l'esprit de dire un truc comme ça.
Bah, il était fatigué, je crois.
Mais à la place de qui tu disais, à la place d'Henri.
Bah oui.
Oh putain.
C'est pour me contredire en fait.
Ah, c'est toi, t'étais là?
Et oui, j'étais en face. Moi, je disais Thierry Henry, nanana.
Mais je suis sûr que t'as rien pu répondre tellement c'était énorme. Quand c'est un truc qui est aussi énorme, des fois, je reste sans voix.
Tu regardes, t'as vu la tête que j'ai.
Et puis, dans les génies de l'after, on a notre correspondant à Bordeaux, Nicolas Paolorsi. Nico, c'est à toi.
Fallait les mettre, les trois buts. Non, mais fallait les mettre, les trois buts.
Les trois buts, oui.
Oui, pardon, autant pour moi.
Les trois buts. Qu'est-ce qui lui arrive?
Il est 23h53, ça passe.
Attends, Nico,
et puis on a aussi Jules Keïta, la petite star de Dijon.
Ah, lui.
Nouveau génie de l'after.
Ah, lui, il va rester numéro 1.
On y va.
Ah oui.
C'est mon image parce que les gens m'appellent là au pays Baba Neyma. Et moi aussi, je peux jouer plus fort que Neyma. Inch'Allah.
Il s'appelle Jules Keïta.
Faut pas avoir de petites ambitions dans la vie.
Moi, voilà. Je te dis Inch'Allah. Hein. Mmh. Qu'il soit plus fort que Neymar.
C'est mon imol, il dit, c'est je m'inquiète. Bon, voilà donc pour les génies. C'est bien les génies de l'after, non? Régulièrement, ils seront là, nos génies.
Lui, franchement, ouais. Pour...
Ça te plaît, ça?
Ah, mais il va battre le record du top 50, c'est ça, le nombre de semaines numéro 1.
Non, mais là, il va y en avoir tellement, à la fin, on fera peut-être une émission spéciale.
Non, mais lui
en tout cas,
je suis désolé.
En tout cas, on en arrive au quiz, messieurs, dames. Ah. C'est parti. Sébastien est là. Sébastien, bonsoir.
Bonsoir, Laster.
Salut, Sébastien.
Sébastien, tu choisis Jérôme ou Daniel pour faire équipe?
Je choisis Daniel, là.
J'ai également Mathieu qui est là. Salut, Mathieu.
Salut, les gars.
Mathieu, tu as choisi Jérôme. On verra si c'est un bon choix. Je rappelle qu'il y a un t-shirt de l'after, un des nouveaux t-shirts de l'after, que le monde du milieu s'arrache, comme dirait Louis Fernandez. Attention. Laurent Simon vient de s'engager avec Dijon. C'est donc l'heure du quiz matériaux.
Oh là, tu, ah non, mais attends, oh. Vous mesurez quand même ce transfert?
Bah oui, le mec, il est passé de Los Angeles à Dijon. On en a fait un quart d'heure dessus, il y a deux jours.
Hier, pendant le match.
Mais il écoutait pas. Ah oui, c'était pendant le match.
Non, c'était pendant le match.
Mais c'était pas pendant l'affaire.
Pendant le match. Lens-Metz, oui. Hier.
Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il habitait?
De Hollywood Boulevard à Dijon.
Où est-ce qu'il habitait à Los Angeles? C'est pour faire une sorte de, tu vois, de comparatif quartier, quoi. De la ville, hein, mais après quartier.
Tu pourrais respecter un peu Dijon.
Ça non, va, mais bon, arrêter,
là, ouais. C'est sympa le centre-ville de Dijon avec la petite chouette là.
Non, mais c'est sympa le centre-ville de Dijon.
Bah oui, c'est sympa.
C'est sympa. Alors je sais pas. Alors qu'est-ce que tu dis du centre-ville? Je sais pas moi. On commence par quelle ville? Non mais parce que quand on dit c'est sympa le centre-ville de Dijon. Alors et dans le monde avec tout ce que t'as.
Bon, écoute, j'ai pas le temps d'entendre. Tu mets où dans le quiz?
Faut pas être gentil.
Laurent Simon est à Dijon. Quel joueur de Lyon? C'est parti, messieurs dames, tout le monde joue. Quel joueur de Lyon est une substance solide qui constitue le tronc, les racines et les branches des arbres?
Tronc.
Mais non.
Qu'est-ce que tu racontes?
Je joue à Lyon. Compris au jeu, c'est un indice. Il avait qu'à écouter et pas s'exciter sur Dijon. C'est un quiz matériau. Je joue à Lyon depuis cet été. Je m'appelle Léo.
Bois.
Dubois, Jérôme, c'est bon.
Mais t'es con.
J'ai dit Bois.
Dubois. Ah, je croyais qu'il fallait trouver la matière.
Mais non, mais sauf qu'il s'appelle Dubois, pas Bois. Ni Bribois.
Oh,
1-0 pour Jérôme et Mathieu.
Non, mais là,
attention, quel ancien joueur, quel ancien international haïtien, mais en fait il a été totémisé par Jean-Yves Maurice, depuis quand c'est un matériau
haïtien?
Quel ancien international haïtien passé par la Ligue 1 est aussi une matière minérale dure et solide?
Éloi.
Non. Ça s'appelle Jean-Jacques, il a joué à Nantes, à Caen et à Angers.
Jean-Jacques,
Daniel, bien joué, un partout.
J'ai joué avec lui à Caen.
Attention. Quiz matériaux. J'ai joué près de 200 matchs avec le PSG entre 92 et 98. J'étais défenseur central, 25 sélections de l'équipe de France. Mon nom est une pierre formée de minéraux et qui constitue la croûte terrestre.
Mais non, Blanc, il a pas joué.
Depuis quand Blanc, c'est un matériau?
La croûte terrestre, il y a pas eu de joueur qui s'appelait Lave. Non, c'est pas la Lave, la croûte terrestre.
Pilorgé.
Il s'agissait de Alain Roche, vous êtes nul. Attention. Attention.
C'est compliqué, c'est pas
quel club anglais? Quel club anglais évolue en première ligue dans son nom un minéral dur à forme géométrique?
Crystal Palace,
bien joué Daniel, 2-1. On continue. Je suis une roche composée de quartz, de feldspath et de mica. Je suis le prénom d'un international suisse. Je suis le
Granit.
Granit Xhaka.
Granit Xhaka, bien joué Jérôme, 2-2.
Mais il l'a pas dit.
Mais c'est un braquage, il est pour moi le
moins.
Non, mais j'ai dit granit. Non, mais c'est de l'arnaque, je refuse, je réponds pas à l'autre, je m'en fous, je fais grève. C'est inadmissible.
2-2, on continue. Quel ancien président stéphanois a pour patronyme un gros bloc de pierre?
Roche. Mais... Roger,
3-2.
Mais quoi?
Bien joué Jérôme.
Non,
attention.
C'est moi, dommage.
3-2. 3-2, il reste une question. Donc soit il y aura égalité, soit il y aura victoire de Daniel.
Celui qui répond là, il a gagné. Allez, c'est bon, vas-y.
On fait tapis?
Allez, bah oui.
Tapis.
Quel ancien attaquant français du Celtic avait un nom de pierre semi-précieuse?
Dembélé. Hudson-Edouard.
Il a toujours rien compris.
Non mais je sais pas, je tente un truc.
Prénom Didier.
Didier Tolo.
Auguste Agathe.
Didier Agathe. Bien joué Daniel. Didier Agathe.
J'ai sorti Didier Tolo.
N'importe quoi.
Seb, tu veux le t-shirt caca, tu es nul, le t-shirt la Liga Espagnola ou le t-shirt Didier le Agathe, jackpot putain, messieurs dames?
Bah... le jackpot.
Allez, c'est parti, on t'envoie ça. Bravo Seb. Merci Mathieu également, c'est fini pour ce soir.
Nous avons décroché le jackpot.
Demain, on sera là dès la fin du match de Bordeaux avec tirage de Ligue des Champions, liste de Deschamps, Europa League, gros
affaire demain, c'est jusqu'à 1h.
Exactement.
Jusqu'à 1h.
Et comment c'est quelle heure le match là contre les Gambapa là?
Bah 20h45.
Ça devrait se finir vers 22h35 s'il y a pas de prolongue.
Impeccable.
À demain soir.
Ciao.
Bye.
RMC, le football show, l'after foot.